Notre invité, direction les États-Unis, à Uvalde, au Texas. 19 familles n'ont pas pu retrouver leur enfant à la sortie de l'école hier. Un jeune homme de 18 ans a fait irruption dans les classes. Il a tiré à bout portant sur les élèves, les professeurs. Il a tué 19 enfants. Tous avaient moins de 10 ans. Deux de leurs professeurs ont aussi perdu la vie avant que la police n'abatte le tireur. Bonjour Didier Combeau.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Des Américains et des armes à feu, démocratie et violence aux États-Unis » qui est paru aux éditions Belin. Alors, on a entendu les mots « désolé », presque résigné du président Biden, la colère de la vice-présidente et de tout le camp démocrate en fait. Que peuvent faire les dirigeants pour s'attaquer au lobby des armes comme le demande Joe Biden ?
Eh bien écoutez, probablement pas grand-chose, hein, puisque pour faire adopter une loi fédéral, il faudrait parvenir à convaincre les sénateurs de voter pour cette loi. Or, et il y a un système d'obstruction au Sénat qui peut exiger que 60% des sénateurs votent pour cette loi et les démocrates, il y a seulement 50% de sénateurs démocrates au Sénat. Donc il est tout à fait hors de question qu'une telle loi puisse aboutir. Et même si elle pouvait aboutir, on attend dans les mois qui viennent une décision de la Cour suprême qui risque de décider que le second amendement à la Constitution interdit de réglementer le port d'armes. Donc il est très difficile de faire adopter une loi, et même si une loi est adoptée, elle risque d'être jugée comme non constitutionnelle.
Ce second amendement, c'est celui qui garantit le port d'armes. Aujourd'hui, il dit que le peuple a le droit de détenir et de porter des armes. Alors, à chaque tuerie, on reparle évidemment du fait de limiter ou d'interdire le port d'armes, la vente aussi quasiment en libre-service des armes. L'Australie l'a fait, hein, et s'enorgueillit d'ailleurs de ne pas avoir vécu d'autres tueries de ce genre depuis, mais c'est quasiment le sacré le port d'armes aux États-Unis.
Ah oui, parce qu'il y a un certain nombre d'Américains, alors c'est peut-être pas la majorité, mais enfin, c'est au moins une minorité importante, qui considère que le fait de pouvoir porter une arme fait partie de l'idéal démocratique. C'est-à-dire que c'est la petite part de pouvoir que peut avoir chaque citoyen. Et en particulier, ça permet à chaque citoyen de prendre les armes si le gouvernement devenait tyrannique. Et ça, c'est quelque chose qui renvoie même à la fondation des États-Unis, hein, à l'époque de la guerre d'indépendance, où les Américains se sont soulevés contre la tyrannie du roi d'Angleterre, du roi George. Et donc ça, c'est très important pour un certain nombre de citoyens. Et puis, ce qui est très important également, c'est le droit à l'autodéfense. Et lorsqu'on parle d'autodéfense aux États-Unis, on parle de la défense de la communauté. Donc, il y a presque un aspect civique dans ce droit à l'autodéfense.
D'ailleurs, très rapidement, après cette nouvelle fusillade, le sénateur du Texas, Ted Cruz, a dit que selon lui, le port d'armes, en fait, ça n'était pas le problème. Il propose, lui, de positionner des policiers armés dans les écoles.
Oui, il y a même des gens qui proposent que les professeurs soient armés. Ce qui paraît complètement extravagant, parce que si on imagine une professeure des écoles qui a un pistolet chargé dans son sac à main et qu'un élève s'empare de cette arme, ce serait extrêmement dangereux. Donc oui, effectivement, très souvent les armes sont présentées comme leur propre antidote en quelque sorte. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, le président Trump avait dit que s'il y avait eu des spectateurs armés au Bataclan lorsqu'il y a eu des attentats du Bataclan à Paris, eh bien, ces spectateurs armés auraient pu mettre fin à la fusillade plus vite.
Est-ce que c'est une position idéologique de la part de, en l'occurrence, de Donald Trump, mais plus largement des Républicains, ou des décisions, des propos qui sont tenus sous la pression des lobbies ?
Oui, alors il y a la pression des lobbies, hein, elle existe. Alors on parle souvent des finances, c'est pas tellement les finances qui sont si importantes, hein, le financement des campagnes, mais c'est surtout le fait que les lobbies comme la NRA notent les responsables, les candidats aux élections en fonction de leur positionnement sur les armes à feu. Donne une note comme à l'école, hein, de A à E, et comme il y a un tout petit pourcentage des Américains qui se détermine uniquement sur ce sujet-là. Alors c'est un tout petit pourcentage, mais c'est le petit pourcentage qui permet de faire basculer les élections. Et de plus en plus, il y a une opposition entre les républicains et les démocrates qui est de plus en plus nette sur ce sujet. Ça fait un petit peu partie des guerres culturelles parce que tout ça renvoie à une question d'identité. Il y a là, du côté des républicains, des gens qui vont penser que le fait d'avoir une arme fait partie de l'identité américaine et donc que si on leur retire leur arme, si on leur retire aussi une partie de leur identité, et puis de l'autre côté, des démocrates qui ont une approche tout à fait différente.
Vous nous parliez de la NRA, donc la très très puissante, le très puissant lobby des armes. Son congrès est prévu ce vendredi. On a déjà entendu certains appels pour annuler le rendez-vous. Est-ce que selon vous, ces appels peuvent être entendus?
Ah, ça c'est difficile à dire, hein, mais ce qui est certain, c'est que la position de la NRA sera que il faut empêcher les armes de tomber en de mauvaises mains, que ce ne sont pas les armes qui sont le problème, ce sont les gens qui les utilisent. Et donc on va certainement entendre les mêmes discours que d'habitude.
Est-ce qu'on arrive, vous nous parliez des personnes qui utilisent ces armes, est-ce qu'on arrive a posteriori à connaître les motivations des tueurs?
Oh, les motivations, elles peuvent être extrêmement diverses, hein. Les fusillades sont extrêmement nombreuses aux États-Unis, c'est pratiquement une par jour. Tout le monde aux États-Unis connaît des endroits où il y a eu des fusillades, donc et pour les motifs les plus divers, hein, des fusillades au travail par des gens qui ont été licenciés, et puis très souvent des fusillades qu'on n'arrive même pas à expliquer, hein,
Dans des lieux
quelquefois des
divers
fusillades
aussi, parce
racistes
que
également.
ici en France, on entend énormément parler des fusillades qui ont lieu dans les écoles, mais est-ce qu'il y en a aussi autant dans des supermarchés, dans des gares, au travail par exemple, comme vous le disiez?
Ah oui, il y en a beaucoup plus en dehors des écoles que dans les écoles. Même si dans les écoles, c'est très fréquent également. On entend parler de celles qui font beaucoup de morts dans les écoles. Mais moi, j'étais par exemple à Sacramento, la capitale de la Californie, il y a quelques semaines. Et à l'endroit précisément où je suis passé, il y a eu une fusillade le lendemain où il y a eu 6 morts. Donc c'est extrêmement fréquent. C'est une fusillade par jour environ aux États-Unis.
Est-ce qu'il y a des parties du pays, des États qui sont plus touchés que d'autres?
Oh, non, c'est assez réparti sur l'ensemble du territoire. Alors, en ce qui concerne les fusillades de masse, hein, ce qu'on appelle une fusillade de masse, c'est lorsqu'il y a plus de 4 personnes touchées, soit tuées, soit blessées. Ça n'est d'ailleurs pas l'essentiel des victimes par arme à feu. L'essentiel des victimes par arme à feu, ce ne sont pas des fusillades de masse, ce sont des conflits de voisinage ou des conflits familiaux qui tournent mal parce qu'il y a une arme à disposition.
Où les armes sont
Et c'est
utilisées,
ça.
mais le nombre de victimes est moins inférieur, ce qui explique aussi qu'on en entende beaucoup moins parler. Merci Didier Combeau d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Des Américains et des armes à feu, démocratie et violence aux États-Unis. Il est paru aux éditions Belin.